Bonsoir, c'est le moment des amis d'Orwell.
War is peace. Freedom is slavery.
Cette semaine, on se penche sur l'exploitation des travailleurs migrants sur les chantiers des Jeux Olympiques.
C'était la patrouille de police qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
gens.
Seul comptait
only the thought police
la police de la pensée.
Ça chauffe sur les chantiers des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui vont envahir l'espace, vous le savez, à partir du 24 juillet prochain. Et depuis l'automne dernier, des collectifs de sans-papiers comme les Gilets Noirs, avec l'aide de syndicalistes, ont décidé de faire du remous sur leurs conditions de travail. C'est un secret pour personne, tous les chantiers des JO comme les autres, comme ceux du Grand Paris par exemple, emploient des travailleurs migrants qui n'ont pas de titre de séjour. Vous connaissez le principe, de grands groupes de BTP comme Bouygues ou Eiffage remportent des marchés et les confient ensuite à une myriade de sous-traitants. Et au bout de la chaîne, ce sont des centaines de personnes migrantes qui font le sale boulot. Alors il faut rappeler que quand on est en situation irrégulière, il est en principe impossible, interdit d'être salarié, mais dans le même temps, la fameuse circulaire Valls de 2012 considère que les sans-papiers qui travaillent doivent pouvoir prendre en compte ce travail salarié en faveur de leur régularisation future. Une lutte emblématique a eu lieu le 17 octobre dernier, sur le site d'un futur complexe sportif, l'Arena de la Porte de la Chapelle. C'était les 17 octobre et également le 1er décembre. Le site a été occupé et certaines mesures ont été prises, mais pas pour tout le monde, nous le verrons. Ce soir, on vous propose à ce propos d'entendre une discussion qui a eu lieu le 24 janvier au TDTF, un bar populaire du 19e, en présence de Mamadou Tamoura pour le collectif des Gilets Noirs. Alors lui, ça fait 10 ans qu'il trime tant bien que mal dans ses boulots précaires et il est toujours en attente d'un titre de séjour. Vous entendrez également à ses côtés Étienne Deschamps. Lui, il est du syndicat CNT-SO. C'est la branche de la CNT dédiée notamment aux travailleurs du nettoyage. Nous allons commencer par diffuser des extraits d'un petit film, Pas de papier, pas de JO, réalisé au mois de novembre. Et son réalisateur était justement présent au TDTF. Alors c'est plutôt un ciné-tract qui était destiné à appeler à la grande manif du 18 décembre, organisée par les collectifs de sans-papiers autour de la marche des solidarités. Alors à noter que cette discussion a eu lieu avant, juste avant la veille de la décision du Conseil constitutionnel qui a donc, vous le savez, censuré en partie la loi Darmanin sur l'immigration. Alors voilà. On commence donc par des extraits de ce film « Pas de papier, pas de JO », entrecoupé par le témoignage du camarade qui l'a réalisé, et ensuite la discussion.
Nous avons dit que Darmanin ne fera pas sa loi. Et cette loi, elle est dangereuse pour nous, et même pour les gens qui sont en situation irrégulière, puisque à la moindre délit, c'est l'expulsion vers le pays d'origine.
Mais c'est dur de vivre sans papier ici en France.
Mais la patience...
Ouais, beaucoup de passion, ça fait du mal aussi.
Ah, c'est que je travaille avec eux. Moi, j'ai tout donné. Je ne regarde pas l'air. Il n'y a pas de pause.
Non, mais ça, il ne faut pas faire ça. Ça, il ne faut pas faire ça parce que tu as des profiteurs. Tu as des gens, ils profitent de la misère de ces gens-là.
Et ils le donnent la moitié de leur paye.
S'il a envie de le payer. Parce que s'il n'a pas envie de le payer,
il le dégage.
Il n'y a rien qui prouve.
Ouais.
Et tu travailles.
Et toi, il faut que tu penses pour toi, ta vie.
Ouais.
Mais ta vie, elle n'a pas de prix, mon frère.
Ouais, combien la monnaie.
Exactement.
Voilà mon pays. Il est là.
Papier, moi pour moi c'est dans la souffrance. Il faut que tu souffres, il faut que tu apprennes les manières pour améliorer, comment on l'appelle, l'économie de la France. La France, il a besoin des travailleurs.
Pendant le Covid, qui était dans les rues pour ramasser les poubelles, pour nettoyer les hôpitaux,
c'est nous.
Pour le nettoyer les métros,
c'est nous.
C'était qui?
C'est nous.
C'était les sans-papiers.
C'est nous, c'est
En ce moment-là, personne ne parlait pas de sans-papiers. Tout le monde avait peur, tout le monde était à la maison, surtout les gens et les extrêmes droites. Voilà ceux qui parlent tout le temps, gna gna gna, avec les sans-papiers. Mais nous, on est là, on travaille, on cotise, on paye des impôts.
C'est les sans-papiers qui font tout le boulot de meurtre, quoi. Tout le boulot que les Français rejettent. Voilà, toi, tu ne peux pas être diplômé pour venir dans un plonge, dans un restaurant, où on te donne combien de vaisselles à laver, où on te disait, faut vite. Toi, Français, d'extrême droite, tu vas accepter de faire ça. Donc, c'est les sans-papiers qui font tout ça, l'État est courant de tout. Voilà, là, 85% des sans-papiers, ils travaillent, ils cotisent. Mais ils n'ont rien après. Ils n'ont aucun droit. Voilà, ces personnes, moi, je pense qu'on doit se battre pour nos droits. Prends l'exemple sur les grévistes de Cornopos. 2 ans de grève.
Moi, ma chambre, c'est... Ah, c'est tellement désordonné. Il y a tout. Il y a des papiers, il y a des livres que je lis. Il y a... Ouf! Ça, c'est fait exprès, c'est pour l'isoler du froid. Ah, j'ai lu un livre sur l'esclavage. C'est intéressant, hein, j'ai la devise. C'est des armes, hein. Moi, je m'en sers beaucoup pour savoir plus sur les systèmes.
Moi, j'ai rejoint la lutte des travailleurs sans papier des JO et du Grand Paris le 17 octobre, lors de la grève et d'occupation de l'Arena qui a été orchestrée par la CNTSO, les Gilets Noirs et tous les collectifs sans papier d'Île-de-France, qui a suscité chez moi beaucoup d'enthousiasme parce que ça, qu'il y avait une sorte d'appel à se réapproprier des outils de lutte que sont la grève et l'occupation et à faire naître un mouvement. Et la logique à ce moment-là était de faire grimper un peu la mobilisation, de la faire contaminer d'autres secteurs, de la massifier. Et donc j'ai réalisé cette vidéo qui est pas vraiment un film, un court-métrage, un documentaire, mais qui est plus une forme de ciné-tract pour motiver des gens à venir le 18 décembre, qui est la date annuelle des migrants et des migrantes, et de contribuer à massifier ce mouvement, à ce que des soutiens viennent se rajouter à la lutte pour qu'elle puisse croître. Donc c'est vraiment une vidéo qui a un but direct, quoi, de motiver des gens à rejoindre la lutte. Donc c'est pas vraiment un documentaire dans ce sens-là, c'est assez prosélyte. Voilà.
Ces systèmes-là, c'est un État qui dit une personne qui demande d'avoir un titre de séjour au motif de travail doit prouver les preuves de son travail. Comment il doit les prouver? En présentant des feuilles de paie à la préfecture lors de la régularisation. Alors que c'est la loi, une loi faite par le même État qui dit il est illégal, il est interdit de faire travailler une personne en situation irrégulière. Donc c'est une loi ambiguë qu'on ne comprend pas. Et ils le comprennent, mais ils prennent nous comme des dupes. Alors on n'a pas le droit de travailler, mais vous nous demandez des feuilles de paie, c'est nous pousser vers une illégalité. Nous pousser vers fabriquer des faux papiers et travailler avec. Nous pousser vers emprunter les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler avec. Comme ça, on peut les tenir. On peut les tenir comme esclavage moderne, cette exploitation. Vous êtes là à la merci de quelqu'un, ce qui est pas trop voyou. Vous dépendez de quelqu'un, soit vous dépendez d'un titre de séjour. Donc derrière ça, ils se font les fous.
Le moment qu'ils avaient besoin de nous, on les a amenés d'office au premier rang. Mon grand-père a déjà fait la guerre. Et la même guerre, ça continue jusqu'à présent.
Il y a 80 ans, l'armée française a massacré les tirailleurs africains. Comme manière de les remercier. Les descendants des tirailleurs africains sont aujourd'hui surexploités, sans droit, sans reconnaissance.
Alors les petits-fils sont là, on la relève. Nous allons réclamer notre droit.
Pendant le Covid, les travailleurs qui ont maintenu les pays, comment ils les remercient aujourd'hui? Avec la loi asile immigration, vous êtes tous des délinquants. Donc ils ont fait avant avec les tirailleurs africains, Afrique subsaharienne et maghrébins. Ils l'ont fait en les massacrant. C'est l'histoire. Hein. Nous on dit hier colonisé, aujourd'hui exploité, demain régularisé. C'est l'histoire. Nous on ne va pas rester freinés là-dessus. Mais on tient à dire la vérité.
On tient à dire la vérité que ça, ça s'est passé. Donc, ils ont décidé de lier leur histoire à la nôtre. Il faut juste l'assumer. Mais ils sont dans un déni total. La bourgeoisie a été toujours comme ça. Masquer la vérité avec un mensonge.
Après, c'est vrai que j'ai un peu emprunté des codes du documentaire. Plutôt que d'aller dans le cinétract très, très, dans le, très prosélyte, quoi. J'ai essayé un peu d'aborder la dimension un peu sensible de cette lutte. Aussi parce que nos adversaires le font, en fait, tous les jours. Nos adversaires mobilisent des affects, en fait, des affects de peur, de haine, de dégoût, sous des apparences comme ça, de raison, de valeur aussi. On fait souvent appel aux valeurs républicaines, à la raison, on peut, soyons raisonnables, on peut pas écrire toute la misère du monde, etc. En fait, de manière sous-jacente, ils mobilisent des affects tout le temps. Je pense aussi qu'il faut qu'on investisse ces dimensions sensibles, ces dimensions d'affects. Cette vidéo se veut vraiment un cinétract. Mais je voulais pas que ça se cantonne sur le registre des idées, je voulais vraiment investir la dimension sensible aussi, qui est pas du tout, qui existe pas du tout dans le paysage médiatique à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est soit on invisibilise, soit on visibilise, mais sous la forme de sous l'angle sécuritaire, de la délinquance. Et donc voilà, je pense qu'il y a, quand on mène une lutte, faut la mener sur tous les terrains, sur le terrain, à travers l'activisme, sur les terrains juridique, administrative, mais aussi les terrains esthétiques. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers cette vidéo.
Ben, je te remercie. Effectivement, tu as raison quand tu soulignes que les militants, en tout cas, souvent les associations, les collectifs, les syndicats, mobilisent souvent des armes très rationnelles, très argumentaires pour toucher un public large. Mais ce faisant, elles passent aussi un peu à côté d'une réalité que tu montres, une réalité plus sensible. Plus émotionnel, mais qui est une partie de la réalité aussi. Et ces images sont rares, donc elles sont quand même précieuses à voir pour nous. Donc merci. Merci. Et peut-être qu'on peut passer du coup la parole et commencer un entretien avec Étienne, que je vous présente, qui est membre de la CNTSO, un camarade, ancien militant qu'on voit dans le film, qui est adhérent de la CNTSO et membre du conseil juridique depuis plusieurs années, qui a mené un certain nombre de luttes dont il nous parlera tout au long de ce débat. Nous avons aussi Dama, qui est membre aussi de la CNTSO et du collectif des Gilets Noirs, et qui nous parlera aussi de ses mobilisations, de ses parcours et des luttes actuelles. Peut-être pour commencer, reprendre un peu dans le contexte social et politique actuel et revenir à la loi Darmanin, qui est l'idée n'est pas de re-rentrer dans ce détail-là. On voulait pour ce débat faire un peu mettre l'accent sur les luttes plutôt que justement sur les détails techniques de la loi. Mais une question quand même se pose en voyant notamment le documentaire, en voyant déjà la très grande difficulté des conditions de vie des travailleurs sans papiers, les luttes et la difficulté des luttes à mener. Avec cette loi Darmanin, on peut se poser la question d'une simple continuité et d'une descente vers le pire. Et là, je m'adresse un peu peut-être aux juristes, Étienne. Ou est-ce qu'il s'agit vraiment, comme on a entendu souvent et beaucoup, est-ce qu'il s'agit d'un tournant et d'un tournant particulier législatif qui emprunte à l'extrême droite? Alors, est-ce que c'est une continuité ou une rupture absolue?
J'ai envie de dire qu'on est dans une continuité, quel que soit le gouvernement. On a depuis des décennies des lois sur l'immigration. On en a eu en 20 ans, 23 ou 24, des fois deux par an, avec des gouvernements de gauche, avec des gouvernements de droite. Évidemment, ceux de droite ont été bien plus radicaux que la gauche, quoique, j'entends sur ma gauche, et aujourd'hui, on arrive, non pas à une fin, parce qu'il y en aura d'autres, parce que les textes qui fondent aujourd'hui la politique migratoire des gouvernements, c'est tout le temps plus d'exclusion, plus de répression, et jamais la reconnaissance de ce qu'apportent les travailleurs migrants, tous les travailleurs migrants, avec ou sans papier, à l'économie du pays. On le voit bien dans le film, quand les collègues disent, pendant le Covid, c'est nous qui étions les livreurs. Moi, j'ai connu un livreur qui livrait l'Élysée. Il était sans papier. Mais là, on ne lui demandait pas s'il avait les papiers. Heureusement, il venait livrer. J'ai connu des livreurs qui travaillaient dans un ministère, au restaurant du ministère, du ministre. En 2009-2010, quand il y avait eu le grand mouvement des travailleurs sans papier, sur l'île de Jade, il y avait le restaurant où allait Sarkozy régulièrement. Il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Non, il était déjà président, pardon. C'était sa cantine. Il y avait des travailleurs sans papier, il n'y en avait pas un. Il y en avait 7, 8, 9 dans ce restaurant. Donc, on voit bien que ces travailleurs sont indispensables. Et ce n'est pas un hasard si des pans du patronat, aujourd'hui, réclament la régularisation. Par exemple, les organisations patronales de la restauration demandent la régularisation des travailleurs sans papier parce qu'ils savent que si demain le gouvernement met en œuvre sa stratégie d'expulser tous les travailleurs sans papier qui travaillent dans les restaurants, ben la moitié des restaurants d'Île-de-France ne pourront pas fonctionner. Donc c'est une réalité. Elle est peut-être regrettable pour certains, mais cette réalité-là, ils ne pourront pas la gommer. Même le président du MEDEF, le soir de l'adoption de la loi, il s'est fendu d'un communiqué regrettant ce qui venait de se passer et le fait qu'on soit sur une logique purement répressive et non pas de régularisation. Je vais simplement reprendre et développer ce que dit le camarade dans le film. Il dit, on n'a pas le droit d'être ici. On n'a pas le droit de travailler ici. On n'a pas le droit d'être sur le territoire. On n'a pas le droit de travailler. Mais si on réussit à prouver qu'on a travaillé, on peut être régularisé. Et pour travailler, comme il y a des sanctions pour les employeurs qui emploient des travailleurs sans papier, ils sont obligés d'avoir soit des faux papiers, soit des alias, c'est-à-dire travailler avec des vrais papiers quelqu'un d'autre, l'employeur devant vérifier auprès de la... soit avec des cartes d'identité fausses ou vraies, le débat est ouvert, de pays de l'espace de l'Union européenne. Les plus fréquents, c'est la Belgique, l'Italie, le Portugal, un peu l'Espagne. Voilà. Mais c'est quand même un état de droit qui marche sur la tête. On vous dit, vous n'avez pas le droit, mais si vous réussissez à contourner cette interdiction, on va vous donner une prime. Il faut arrêter cette hypocrisie. Et on va même plus loin, la préfecture. Les préfectures nous disent, si vous avez travaillé avec des faux, les papiers de quelqu'un d'autre, pour prouver votre activité professionnelle, ce qui est quand même le fondement de la régularisation par le travail, et en tant que syndicaliste, je resterai sur ce segment-là, eh bien, on nous donne des attestations de concordance, par lesquelles l'employeur dit « Monsieur Dupont, il a travaillé sous le nom de Durand pendant X années ». Quand même, pour un État dit de droit, quand même assez extraordinaire. Je suis un peu juriste, malheureusement, et parce qu'on est obligé de se battre contre le droit bourgeois. Et donc, il y a aussi toutes les stratégies pour imposer aux patrons de remettre les CERFA. On a vu la lutte des chronopostes, on a vu l'occupation du chantier Bouygues à l'Arena de Paris, où il y avait... Alors oui, c'est facile, la sous-traitance, ça permet d'exonérer les grands groupes de leurs responsabilités. Mais ils savent très bien qu'au prix où ils traitent les marchés avec leurs sous-traitants, de toute façon, on peut y avoir que des sans-papiers. Ou quasiment que des sans-papiers. Donc, on est là sur des logiques lourdes du système qu'il faut dénoncer. Moi, je vois dans mes permanences juridiques des salariés qui viennent me voir avec des bulletins de salaire où il y a un numéro de sécurité sociale, et si vous êtes assis, restez-le, 1-99-99-99-99. Je n'ai jamais vu, et pendant des années, hein, pas uniquement un mois ou deux, hier, des salariés qui travaillent depuis 5, 6, 7 ans avec des numéros de sécurité sociale. Ça veut dire qu'ils payent, l'employeur paye des cotisations, prélève le précompte sur la partie du salaire que du salarié, mais le salarié ne bénéficie de rien. puisque le précompte, il est attribué en fonction du numéro de sécurité sociale sur le compte du salarié pour sa retraite, pour ci, pour ça. Là, il n'y a pas de numéro de... On a des employeurs qui mettent comme numéro de sécurité sociale le numéro d'AME, d'aide médicale d'État, qui est un numéro qui commence par 7 pour bien identifier la situation administrative du salarié. Et donc, quand vous avez un numéro qui commence par 7, vous ne pouvez pas travailler. Donc, l'employeur ne peut pas dire « je ne savais pas ». Je ne savais pas. Et on a, nous, mis à la CNTSO, mais avec d'autres, mis en place des stratégies contre les employeurs qui refusent de remettre les CERFA et ce qu'on appelle le kit de régularisation dans le cadre de la circulaire Valls, des stratégies en saisissant les prud'hommes dès que l'on peut prouver que l'employeur avait connaissance d'une manière ou d'une autre de la situation administrative de son salarié. La vraie difficulté, c'est pour ce qu'on appelle le travail au noir, c'est-à-dire pas de bulletin de salaire et pas de traces évidentes de paiement. Là, il y a des stratégies. On a les SMS où le salarié, on a les SMS où l'employeur dit à son salarié « tu vas sur tel chantier ». Et on saisit quand même les conseils de prud'homme pour obtenir une décision au nom de nous tous, du peuple français, comme c'est marqué sur les décisions de justice, qui dit « Monsieur Untel, il a travaillé sans bulletin de salaire et ça nous sert à valider les périodes de travail des salariés pour demander éventuellement la régularisation par le travail avec tout le reste. » C'est aussi le moyen de faire pression sur les employeurs qui préfèrent finalement rentrer dans le rang et donner les documents pour une régularisation par le travail, plutôt que de se prendre une condamnation par le Conseil de prud'hommes. Pour finir sur le juridique, faut savoir qu'un travailleur sans papier, par le Code du travail lui-même, est considéré comme un travailleur lambda. Il a les mêmes droits que nous tous. Pourtant, il ne peut pas, et le Code du travail précise qu'il peut saisir notamment le Conseil de prud'homme, mais les travailleurs qui n'ont pas beaucoup de revenus peuvent bénéficier de l'aide juridique, gratuite, c'est-à-dire c'est l'État qui paye les avocats. Les travailleurs sans papier ne peuvent pas. On a posé, nous, une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité, en disant que c'est une distorsion d'égalité de droit. Le Conseil de prud'homme de Paris nous a donné raison en transmettant notre question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, dont l'avocat général vient de rendre un avis demandant la transmission au Conseil constitutionnel. Donc, c'est pas gagné. Tout ça pour vous dire que le droit bourgeois, on peut aussi trouver des coins pour enfoncer la carapace du capitalisme qui n'arrête pas de trouver de nouvelles armes. Ce qui est aussi important dans le film, ce qui me paraît important, c'est la réalité que décrivent les collègues sans papier. Cette difficulté, ça apparaît pas trop dans le film, mais cette difficulté de vivre quotidiennement, y compris dans les transports en commun, parce qu'on est à la merci de n'importe quel contrôle d'identité, on est à la merci de n'importe quelle rafle de la police, comme celle qui se passe régulièrement à Gare du Nord. Voilà. Cette difficulté-là, on la mesure pas. Et ça rend les collègues dans un stress, dans une angoisse de savoir si le soir ils vont rentrer chez eux et s'ils vont pas être cueillis. Et je vous parle pas des contrôles sur les lieux de travail, notamment dans la restauration, notamment dans le bâtiment, où là on a des contrôles conjointe de l'inspection du travail, de la gendarmerie et de l'URSSAF, assez régulière, hein, quotidienne, ça se traduit par des OQTF, des mises en centre de rétention. Nous, on appelle à une forte mobilisation sur la loi Darmanin. Elle va très probablement être validée partiellement par le Conseil constitutionnel, mais la bataille ne va pas s'arrêter pour autant. Aujourd'hui, ce à quoi on travaille en tant qu'organisation syndicale avec les collectifs de travailleurs sans papiers, avec des travailleurs sans papiers inorganisés mais qui commencent à sentir le vent tourner, c'est montrer qu'ils sont indispensables à notre économie par une grève des travailleurs sans papiers eux-mêmes.
Ben justement, merci Étienne. On peut peut-être passer la parole à Dama parce que tu nous adressais un portrait, enfin en tout cas un tableau assez clair et juridique et au niveau droit de la loi Darmanin et toutes les conséquences des lois successives, des 30 lois successives sur l'immigration qui rendent de plus en plus difficile l'accès aux droits pour les immigrés et les sans-papiers. Et comme on a ici quelques protagonistes ou quelques sans-papiers, j'aimerais bien qu'ils nous parlent, Dama ou un autre, de cette réalité quotidienne, c'est-à-dire cette difficulté d'aller au boulot, de se faire soigner, de trouver du boulot, ces astuces pour arriver à être payé, etc. Donc, si l'un d'entre vous peut nous expliquer un petit peu ou nous parler de son parcours, ça nous éclairerait pas mal.
Je vais parler sa place d'abord. Comme lui, il ne parle pas bien français, je parle d'anglais, anglais quoi. Bon, du coup, mon nom, c'est M. Tamoura Mamadou, référent des îles Noires, depuis 2019. Bon, moi-même, je suis venu ici en 2013, ça fait 10 ans. Il y a beaucoup de choses, nous, on traverse. Bon, comme en tant qu'un homme, beaucoup de choses, tu gardes pour toi-même. Mais il y a des choses aussi, il faut partager avec des petites expériences. Moi, ça m'arrive même, j'ai fait garde à vie, gratuitement. Et pourtant, le jour même, j'ai quitté à l'hôpital. J'étais mal au bras. Moi, je pars au chantier, on travaille. Anthony, j'ai quitté au deuxième étage jusqu'au premier étage. J'ai bras qui est desserré. Après, je pars à l'hôpital. Je quitte à l'hôpital, je dis, attends, je vais passer au foyer pour aller acheter des petits trucs de magie, quoi, avant de rentrer chez moi. Je rentrais, en sortant, j'ai trouvé les policiers, ils ont rempli la rue. Ils sont partis jusqu'au foyer. Hein. C'est comme tu envahis de quelqu'un, il va aller ramasser le mouton ou le machin comme ça, quoi. Ils sont venus, et pourtant, il m'a vu, j'ai un truc dans mes bras, mais j'ai dit, mais c'est, faut pas me miloter quand même. Je n'ai pas tué personne. Il me dit, non, c'est la loi. J'ai dit, quelle loi? Bon, il y a des choses où quand c'est pas... C'est pas facile pour dire, mais on peut pas garder. Tu sais, on va dire que France, c'est d'égalité. Ça n'existe pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Cet pays-là, il n'y a aucune égalité. Il n'y a aucune égalité. Parce que si on parle d'égalité, il y a pas mal de métros, ni trains. Même Gare du Nord, cette aire-là, en tant que Noir ou en tant que des Arabes, si tu passes là-bas, il y a des policiers qui vont te demander. Vous dites qu'égalité. L'égalité où? Il y a des choses où aussi les Français, ils sont convaincus. Et quelqu'un qui est voyou et quelqu'un qui est bien, vous ne connaissez pas. Les policiers ne le connaissent pas. Dès qu'il t'a vu qu'il était en tête noire ou qu'il était en tête africain, et toi, tu es parti. Parce que tu es en poubelle. Il ne faut pas que vous oubliez pendant le Covid. C'est nous qui est battus ici. Hein. Avant tout ça, moi, j'ai fait 10 ans. Même une seule journée, je n'ai pas pris en vacances. Et pourtant, j'ai droit à vacances. Mais avec le travail Mabouy, si je pars de vacances, est-ce que je serai payant quand je paye? Parce qu'ils te demandent quoi? Un numéro de sécurité pour le BTP. Et pourtant, chaque mois, je cotise. Chaque mois, je cotise. Mais avec les patrons, ils sont corrompus avec tout. Nous, on ne sait pas où on doit aller, où on doit venir. Même entre nous-mêmes, en tant que les immigrés, si tu n'as pas de papier, tu n'as rien. Comme tu n'existes pas, même pas. Même un centime de crédit, tu ne peux pas trouver à qui que ce soit. Parce qu'il va dire quoi? Tu n'as pas de papiers, je risque de te donner des crédits, et demain tu es parti. Qui va payer moi 1 euro? Il parle de la loi de 10 ans. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est du mensonge. Moi, ça m'arrive des fois. Pourquoi je suis venu de coloniser français? Mieux que je venir de coloniser anglophone, et mieux que français. Parce que j'ai dégoûté. Moi, dans ma famille, on est 45 personnes ici. 45 personnes qui est ici. Est-ce que nous, on est étrangers de ce pays? Nous, on n'est pas étrangers de ce pays. Surtout moi, en tant que M. Tamoura Mamadou, référent des îles Noires. Mon père, il a fait deuxième guerre mondiale ici. Voilà son fils. Il est dans la galère pendant 10 ans. Et pourtant, j'ai des lois et des pays. chaque mois 800 euros. Ensemble de 20 mètres 4 carrés. 800 euros. Vous dites que l'impôt, dès que tu payes de l'impôt, et dès que tu travailles, et dès que tu as des sécurités, tout ça c'est mensonge. On n'est pas dans les pays. Hein. Et puis encore, M. Macron aussi, il est venu, il a tout mélangé. Bon, moi je m'arrête ici.
Merci, merci pour ça.
Bonjour, je viens de Rennes. Déjà, je voudrais dire que ce matin, l'université Rennes 2 a été bloquée et que c'est pas simplement qu'on est avec vous, c'est qu'on est tous ensemble. Et je viens ici pour vous poser une question qui est adressée aux sans-papiers. Lors des mobilisations, quand vous venez en manif, quels sont les risques judiciaires que vous encourez? Parce qu'en fait, c'est une question qui revient souvent pendant les mobilisations, dans les AG, etc. On parle souvent des premiers concernés, on dit souvent qu'on ne peut pas se mettre au même endroit dans la manif. Est-ce qu'on peut être ensemble et quels sont les risques que vous prenez quand vous vous mobilisez en n'ayant pas de papier? Merci.
Pour mobiliser, c'est pas un truc de facile. Dans toute façon, on a des papiers, on n'a pas des papiers, on fait des mobilisations, on ne fait pas des mobilisations, on est dans les risques. Cet risque-là, nous-mêmes, on assume. Bon, il y a une mot, je voulais répondre ça. Toujours, je répète, même chose. Nous, on n'a pas de sans-papiers. On n'a pas de carte séjour des Français, mais on n'a pas de sans-papiers. Parce qu'on a des papiers de chez nous. On a des papiers de chez nous. Cet mot-même, ça divise de... Entre guillemets, quoi. Entre guillemets, c'est un mot de racisme. C'est un mot de racisme. On peut dire qu'il n'a pas de carte séjour français, mais sans papier, même les chiens, il a des papiers. Au moins, que s'il est malade, le vétérinaire, il va venir les soigner. Mais en tant que notre humain, on a des papiers quand même, on n'a pas de carte séjour. Pour mobiliser, pour faire des grèves, pour moi, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque pour moi. Parce que les risques d'abord, pour quitter ton lit, pour aller au travail, tu es dans les risques. Le premier risque... D'abord, c'est ça. Et les bonnes paroles à chez nous, il a dit, quand tu tombes, avant tu vas dire que pourquoi j'ai tombé, il faut regarder d'abord où tu tombes. Et où tu... L'accident, où tu viens. Parce que tu peux tomber ici, mais peut-être tu es talonné là-bas, après tu es venu tomber ici. Avant, tu vas dire que les manifestations comme ça, le jour que quand tu vas prendre tes sacs pour aller au travail, d'abord, il y a plusieurs... Nos équipes te regardent partout. En tellement que tu as des pères, même les gens qui sont dans le métro, surtout vous femmes, vous m'excusez. Les femmes, y a, des fois quand tu es métro, toi-même tu es père, les femmes aussi te perdent de toi. Parce qu'ils pensent que tu es voleur. Parce que tu n'as pas envie de toucher à qui que soit pour trouver des problèmes. Peut-être en passant, tu peux marcher sur les pieds de quelqu'un et peut-être créer des problèmes. Nous-mêmes, tellement qu'on a perdu tout le côté, cette paire-là, ça va finir quand? Est-ce que si on reste à la maison, ça va finir? On va les battre? Il n'y a aucun risque pour moi, il n'y a aucun risque pour faire des grèves.
Bah, premièrement, excuse-moi pour la dénomination sans papier, je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Et ensuite, moi, ma question, c'est vraiment une question pratique. Enfin, j'aurais un petit peu besoin de réponses techniques. Et du coup, ma question, c'est vraiment, est-ce qu'il y a des lois particulières pour les gens qui n'ont pas de titre de séjour? Ou est-ce que le fait qu'on soit dans les mêmes cortèges, dans les manifestations, dans les mobilisations dans la rue, ça vous met plus en danger que nous ou pas? C'est pour pouvoir répondre et argumenter pendant les AG aux personnes qui répondent, qui nous disent que les personnes qui n'ont pas titre de séjour français ne peuvent pas être aux côtés des personnes qui ont des papiers français dans les mobilisations.
Bien sûr que si. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a une réponse purement juridique. Le droit de manifester est ouvert à tout citoyen résident sur le sol dit national. Ça, c'est la première règle. Évidemment, il faut entourer, je dirais, cette règle juridique et la sécuriser. Une manifestation interdite sera évidemment plus compliquée à organiser qu'une manifestation autorisée. Des manifestations, on en fait tous les jours avec des travailleurs sans papier, avec des travailleurs en situation précaire sur le plan administratif. On en a fait même pendant le confinement, alors qu'on n'avait pas le droit de les faire. Notamment avec les camarades de la marge des solidarités. On a fait des, des manifestations, y compris pendant le confinement, notamment le 18 décembre, quand tout le pays n'avait pas le droit de sortir. On a maintenu une initiative. On a fait... Faut voir qu'avec les gilets noirs, le Panthéon a été occupé pendant plusieurs heures, et on a, pas moi, les camarades des collectifs de gilets noirs à l'époque, ont négocié une sortie, la tête haute, du Panthéon, sans aucune arrestation. Ils ont occupé les halls de Roissy pour dénoncer la mise dans les avions des travailleurs et des citoyens qui avaient une OQTF, une obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire que si on a préparé les choses, préparé la cohorte d'avocats indispensable pour assurer la sécurité des militants, eh bien, on peut manifester. Ils peuvent, avec nous, et nous avec eux, manifester. Le 18 décembre, on était 7-8 000. Le 14 janvier, on était 12-13 000 à l'initiative des collectifs de travailleurs sans papier. Tous les vendredis, la CSP 75, le collectif des sans-papiers de Paris, puisque c'est leur nom, appelle à un rassemblement à République. Ils sont tous en situation administrative précaire. Et régulièrement, ils sont 200, 300, en ce moment un peu plus nombreux, évidemment, parce que la situation est particulièrement tendue, pour ne pas dire plus. Voilà. On a là la preuve que si on se donne les moyens, les collègues ont la volonté de se battre avec nous. Et si on n'est pas là, ils se battent sans nous. De toute façon, ils vont se battre, parce que c'est une question de survie pour eux, de survie, de dignité.
Une petite question me vient aussi en regardant le documentaire et vos mobilisations. Il y a un paradoxe que j'arrive pas à trancher, une position qui est compliquée à comprendre, qui est celle du patronat français. C'est-à-dire qu'on comprend bien, il y a un point de la loi Darmanin qui était consacré même exclusivement à ça, qui est le point des métiers en tension, qui était censé pouvoir favoriser la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Et en même temps, on voit qu'il y a une partie du patronat qui maintient et qui se sert d'une main-d'œuvre sans papier pour réduire les coûts du travail. Donc, toi, de ton expérience militante, comment tu peux apprécier et comprendre ce phénomène ? Est-ce que tu as un patronat qui est hostile à la régularisation, qui est pour la régularisation, qui subit une pression politique ?
Le monde du patronat est traversé par les mêmes contradictions que l'ensemble de la société française. Il y a une partie des patrons qui disent, moi, si je peux aider à la régularisation et que je ne risque rien, quand même, c'est parce que je suis prêt. Puis il y en a d'autres qui, sur une base idéologique, disent, bien qu'ils les utilisent tous les jours, dans leur restaurant, dans leur chantier, dans tout ça, je ne veux pas. Je vais prendre un exemple. Les personnes qui travaillent dans l'aide à domicile, la majorité des personnes, des usagers de ces services, d'un certain âge, aiment bien leur assistante de vie. Mais dès qu'on est sur une globalisation, ils disent « Ah oui, mais moi je suis contre les étrangers ». Dans ce secteur, on est à 80% de salariés étrangers et on doit être à 60 ou 50%, les chiffres sont variables. De femmes qui sont en situation administrative très précaire. Mais si on dit à la personne âgée ou aux parents de l'enfant handicapé qui est aidé, est-ce que vous voulez qu'on expulse Madame X ? Ils vont dire non, parce qu'ils savent bien qu'ils vont avoir un problème pour la remplacer. Aujourd'hui, on a du mal à recruter dans ces métiers parce que c'est compliqué. Et puis, les patrons, ils sont pris, je dirais, entre deux feux. Ils ont un problème de rentabilité et le seul moyen de quand on a des sous-traitants, des donneurs d'ordre cambouis qui vous pressurent, bah c'est de gratter sur les droits des salariés. Donc un travailleur du bâtiment qui n'a pas de vrais papiers, on va le payer. C'est ce qui s'est passé sur le siège du Monde. où on avait des travailleurs qui faisaient une journée, une nuit, qui enchaînaient une journée, se reposaient 3-4 heures sur des tas de produits d'isolation, ils dormaient 3-4 heures, ils enchaînaient la nuit, ils enchaînaient le lendemain matin, pour 40 euros la nuit, sur le siège du Monde, en construction certes. Alors c'était pas le Monde qui était, qui était l'employeur, mais ça montre quand même que ça déteint sur l'ensemble de la société. Et quand on est arrivé sur le site et qu'on l'a occupé, quelques semaines avant le premier confinement, eh bien, la direction du Monde a eu l'air d'être étonnée. Ils ont fait un article dans l'édition papier et dans l'édition, c'est Francine Ajekovici qui avait fait l'article. Tout ça pour vous dire que tous les secteurs sont touchés. Alors, sur ta question précise de la contradiction, c'est vrai que l'actuel président du syndicat, il y a deux syndicats patronaux dans la restauration. Il y en a un, ils sont de la droite dure. Et l'autre, qui depuis les grandes grèves de 2010, qui au moment des grandes grèves de 2010, avait déjà dit, nous on est pour la régularisation sans condition, dès qu'un salarié a un contrat de travail, quelle que soit la durée de ce contrat de travail. Ils étaient même à l'origine de ce qu'on a appelé l'article 43, présenté par Hortefeux, qui était ministre de l'Intérieur, et qui avait conduit à la régularisation par le travail. Et en 2012, quand Valls est devenu ministre de l'Intérieur, comme toutes les préfectures appliquaient cet article 43 un petit peu à la tête du client, circulaire Valls, d'où le nom, a dit « il faut donner au service un cadre » et d'où la circulaire qui traite évidemment de la régularisation par le travail, mais qui traite aussi de la régularisation des enfants scolarisés, enfin, vie privée et familiale, qui traite aussi de la régularisation pour raison médicale, qui traite aussi d'un certain nombre, un peu moins de l'asile, mais qui en parle quand même. Voilà. Et il a dit, eh bien, quand le salarié dispose de temps, il n'a pas levé la contradiction que j'ai évoquée tout à l'heure et qui est largement évoquée dans le documentaire de « t'as pas le droit d'être ici, il faut... » Mais il a dit, et c'est important, à partir du moment où l'employeur s'engage dans une démarche de régularisation, il est logique, alors c'est pas le « il est logique » n'est pas dans la circulaire, mais c'est ça qu'elle sous-tend, il est logique qu'il puisse continuer à travailler, parce que actuellement les délais d'instruction des dossiers, c'est 1 an et demi à 2 ans. Si une fois que l'employeur a rempli les CERFA, vous restez 2 ans sans salaire, je ne vous dis pas la galère dans laquelle vous êtes.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire dans Les Amis d'Orwell, l'émission de Soyez. Vous êtes filmé. Vous écoutez une discussion organisée fin janvier par le bar TDTF dans le 19e. Alors vous avez entendu Étienne de la CNTSO qui expliquait les enjeux de ces luttes de travailleurs sans papier exploités sur les différents chantiers des Jeux Olympiques. Et après la pause, on parlera plus précisément de l'aréna de la Porte de la Chapelle qui fut le théâtre d'une belle bagarre il y a quelques semaines.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le projet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser, pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narco, trafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon. Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande hypocrite, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tout vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français. Sur le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? T'es loin des artistes transparents. J'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait elle-même. Je suis pas en manque d'affection. Comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
C'était Kerry James, vous l'avez reconnu avec son morceau « Lettre à la République ». On enchaîne à présent, on retourne dans cette discussion sur le travail des migrants sur les chantiers des Jeux Olympiques. On revient donc, comme je vous l'ai dit, sur celui de l'aréna de la Porte de la Chapelle, dont d'ailleurs la gestion sera confiée au géant Adidas.
Sur l'aréna.
Rappelle simplement l'aréna, ce que c'est.
L'aréna, c'est le centre... des sportifs qui a été construit par Bouygues pour la ville de Paris et qui va être géré par Adidas sur la Porte de la Chapelle, qui est un équipement sportif qui va être inauguré le 11. Si vous avez rien à faire, je vous invite à y aller. Et on a occupé Bouygues, enfin le chantier. C'est ce qu'on voit avec les collectifs de sans-papiers et les gilets noirs le 17 octobre. Et on a imposé à Bouygues de convoquer ces trois entreprises sous-traitantes chez qui il y avait des sans-papiers. Et on a signé vers 20h un protocole qui prévoit la remise de tous les documents pour leur régularisation. Et surtout qui prévoit que les salariés restent en poste. Et c'est là, alors qu'on a négocié en présence de Bouygues et de la ville de Paris, qui est propriétaire du site, et c'est le chantier emblématique. Allez, je vais vous faire une confidence. Savez-vous qui est responsable de la politique sociale sur l'ensemble des sites des Jeux Olympiques, des sites en construction des Jeux Olympiques? Vous pouvez. C'est Thibault, ancien secrétaire national de la CGT. Et il ne s'est jamais, au grand jamais, intéressé à la situation des travailleurs en situation précaire, pour pas dire sans papier, mais... au regard du droit français, ils sont effectivement sans papier, si on est... Mais, c'est quand même pas neutre. Je vais vous faire une autre confidence, parce que vous, quand on n'est pas dans le sérail, on l'a oublié. L'ancienne responsable nationale de la CGT, Marilyn Poulain, pour ne pas la citer, qui a été une militante active dans le cadre du mouvement de grève, 5 à 6 000 grévistes en 2009-2010, a été nommée sous-préfète par Darmanin dans l'Est de la France pour s'occuper de la politique de régularisation des salariés demandeurs d'un titre de travail et de séjour en France. Quand on bascule de la direction confédérale de la CGT à l'équipe de Darmanin, je trouve que c'est terrible pour le syndicalisme, à titre personnel, mais elle est sous-préfète. Voilà, c'est le nom qu'on lui a donné, mais bon, son but, sa mission, c'est, et elle se targue dans la presse, d'être largement l'inspiratrice de ce qui était le projet, qui était quand même moins dur que ce qu'on a là. Là, on a... mais ce qui se passe, ça interroge aussi sur les stratégies des politiques. Hein.
Ce qui aussi nous permet d'envisager cette question du rôle des syndicats et de la présence syndicale. Évidemment, CNTSO, CGT, dans les mobilisations collectives, Gilets Noirs, collectif de sans-papiers. Mais dans le quotidien et dans la réalité des luttes, comment ça se passe avec les autres syndicats ?
Il y a tous les cas de figure. J'ai cité le cas de Marilyn. Ce n'est pas la position officielle de la CGT, soyons clairs. Je pense que dans toutes les époques, il peut y avoir des syndicalistes qui retournent leur veste, on l'a connu, ou des politiques qui retournent leur veste, on l'a connu à toutes les époques, et même dans les périodes sombres de notre histoire. Ceci dit, aujourd'hui, il y a très clairement deux pôles. Un pôle autour des organisations comme Solidaire, Nous, qui est un pôle de lutte un peu radical. Solidaire faisant une espèce de pont entre le pôle des collectifs de travailleurs sans papiers, de la marche des solidarités, et un autre pôle qui appelait à la manifestation de dimanche dernier, plus républicaine, pour défendre les valeurs de la République. Alors que nous, enfin moi, les valeurs de la République, quand je vois comment ça fonctionne, la République, j'ai un peu de mal à les défendre, mais c'est personnel. Hein. Et qui est sur une position, alors qu'ils ont mené des luttes dures, le mouvement des la grève des travailleurs en 2009-2010, c'était 5-6 000 travailleurs qui occupaient des entreprises, des restaurants, tout. Et qui ont obtenu, hein, dans la très grande majorité des cas, leur régularisation. Ils ont mené encore le 17 octobre. Le hasard a voulu, sans qu'on se concerte, parce qu'ils ne veulent pas discuter avec nous. Et ils avaient même donné comme instruction à leurs militants de ne rien laisser filtrer pour que nous ne soyons pas au courant qu'ils s'apprêtaient le même jour, le 17. Nous, on occupe l'aréna vers 7 heures. Vers 11h, la CGT occupe une trentaine de sites, sans concertation. C'est dommage, parce que plus on est de fous ensemble, plus on peut faire rire l'État. C'est une boutade, évidemment, mais je veux dire par là que si chacun reste sur ses... J'ai beaucoup de divergences avec la CGT, évidemment, et eux en ont beaucoup avec nous. Mais si on ne passe pas un petit peu dans l'intérêt des travailleurs au-dessus de ces divergences, eh bien on a la CGT qui mène ses piquets et nous qui menons nos piquets, et ça n'a aucun sens et ça ne sert pas à la lutte collective.
Moi, juste une mot seulement pour CGT. Bon, nous, côté des CGT, parce qu'ils sont, ils sont mieux que nous. C'est pour cela que nous aussi, on a décidé, tout ce qui est des problèmes de CGT, on va oublier. On va oublier. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire des choses sans nous. Il n'y a qu'à faire. Nous aussi, on vous les montrer. On peut faire des choses sans eux. Ça est parce qu'on a beaucoup de choses de dire entre nous. Mais on s'est en train de méfier. Et surtout côté les immigrés des... celui qui ne sont pas des cartes séjour de France. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas envie d'aller loin, mais pour l'instant, on n'est pas des choses bien entre nous, quoi.
Non, mais, par exemple, sur les Jeux Olympiques, les camarades de la CGT du 93 ont identifié plusieurs centaines de travailleurs sans papier sur les sites des Jeux Olympiques, tous, ou du Grand Paris, sur le 93. Ils ont saisi les conseils de prud'homme et demander à la direct, à l'inspection du travail, pour faire simple, de mettre des pénalités aux employeurs pourris. Ils ont saisi le conseil de prud'homme, il y a eu une première audience, c'est en cours. On a des divergences, mais chacun fait, avec les moyens qui sont les siens, ils en ont plus que nous, des choses. Il faut aussi leur rendre ce crédit. Et on peut critiquer, moi j'aime bien critiquer la CGT, mais c'est pas forcément efficace quand ils font les choses, il faut reconnaître ce qu'ils font. Moi, si j'avais pu le faire, j'aurais aimé le faire. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les relais nécessaires. Point à la ligne. Nous, on fait d'autres choses. On fait des actions, on a fait régulariser une quarantaine de gars en septembre après une occupation sur un site cubine. On a fait régulariser, on a demandé la régularisation avec les CERFA fournis par l'employeur pour une boîte d'intérim qui s'appelle CAPA, qui est une filiale d'ADECO. Voilà. Mais chacun, avec les moyens qui sont les siens, avec les forces qui sont les nôtres respectivement, ben on essaye de faire bouger les lignes. Après, les relations entre nous sont complexes. Faut l'accepter. Et on s'est aligné à chaque fois sur la position des collectifs. Parce que ce sont les principaux concernés. Je vous raconte pas les magouilles qu'il y a eu autour du 14 décembre et du 21. Mais c'est, dans l'absolu, assez inacceptable quand on est militant. Et je comprends la rancœur des camarades.
Mais Étienne, tout à l'heure, il a parlé des sentiers de l'Arena. On a fait 8 mois de mobilisation. Chaque mercredi soir, ou bien vendredi soir, on prend de notre café et des thés et des petits biscuits. On va aller devant des chantiers. On va commencer à mobiliser des gens. Depuis, il y a des jours où on trouvait des gens pour parler. Il y a des gens, même, ils ne nous calculent même pas. Il y a des côtés aussi, c'est facile, mais tout ce que moi je peux le dire, c'est pas.
Oui, avec les gilets noirs, on s'était donné comme objectif, pas comme mission, c'est, j'aime pas ce terme, comme objectif d'alerter les collègues en situation précaire qui travaillaient sur ces chantiers et un dimanche sur deux, on faisait une permanence destinée à recevoir, on annonçait la permanence dans nos locaux, à recevoir ceux et celles. Mais sur les chantiers du bâtiment, c'est surtout ceux qui voulaient se mobiliser. Et j'ai envie de dire, à notre grande surprise, quand on a pris l'initiative, on s'attendait à avoir... On n'était pas sûr du tout qu'il y ait des gens qui viennent nous voir. Parce que c'était venir s'identifier comme en situation irrégulière par rapport au titre de séjour et de travail. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident, parce qu'il y a la crainte qui a été évoquée tout à l'heure. Et à chaque dimanche, il y en avait un nouveau. Et c'est comme ça qu'on a réussi sur l'Arena, hein, tu confirmes, c'est comme ça qu'on a réussi sur l'Arena à avoir des équipes dans 3 boîtes. Alors on a été prudents, on s'est dit, bon, on n'avait pas des milliers et des cents. On a donc réuni sur ce site tous les salariés qui nous avaient contactés et qui travaillaient sur ces boîtes. Certes, certains ne travaillaient pas sur le site de l'Arena, mais ils avaient tous travaillé pour Bouygues, pour FH, pour Vinci, et quelques autres, les majeurs du bâtiment. Parce que quand on a beaucoup attaqué Bouygues, ils n'ont pas le monopole de ces pratiques de voyous. Sur Le Monde, c'était Fage. Sur la bibliothèque rue de Richelieu, c'était Vinci. Et à chaque fois, on les tape et on met en cause la responsabilité des donneurs d'ordre. Les entreprises sous-traitantes, j'ai envie de dire, pour nous, c'est secondaire. L'objectif, c'est le donneur d'ordre. Point à la ligne.
On va continuer. Etienne, tu veux peut-être dire un mot, puis il y avait une question aussi ici.
Ouais, ben justement, je voulais revenir sur... Étienne, tout à l'heure, tu parlais de l'Arena. Je crois que tu n'as pas fini ta... Est-ce que tu peux faire le point sur les promesses qui ont été faites en octobre? Est-ce que tout le monde a gardé son poste? Et quels sont les autres points de friction, peut-être dans d'autres sites?
Alors, sur les collègues qui étaient concernés par les demandes de régularisation sur l'ARENA. Tous ont obtenu les CERFA, plus ou moins facilement. Presque tous ont gardé leur emploi ou ont été payés, même s'ils ne pouvaient pas. Il y a une boîte qui n'a que Bouygues comme client. Et comme Bouygues refuse qu'ils intègrent l'un ou l'autre de ces chantiers, on a là une vraie difficulté. Et l'entreprise dit « Oui, mais moi, je ne vais pas pouvoir le payer à l'infini si ça dure un an et demi. » Là-dessus, on est en train de négocier. Bien sûr, on sait que c'est en juin, malheureusement. Et puis, il y a lui. Il est dans une boîte où ils se font un petit peu... Ils ont d'autres chantiers. C'est une boîte de nettoyage. C'est peinture...
Non, c'est pas moi.
C'est pas toi, pardon. Je mélange... On a un collègue qui est dans une boîte de nettoyage qui refuse d'appliquer le protocole. On vient de les menacer, on a un texte signé quand même. On vient de les menacer de saisir le conseil de prud'homme pour non respect d'un accord de fin de conflit. Et là, le ton vient de changer. Je dis pas qu'on a encore gagné, mais je pense qu'on a une ouverture. Voilà. Sur l'ARENA, comme on voyait que cette situation était un peu bloquée, et c'est ce qu'on voit dans le film, on réoccupe l'ARENA le 1er décembre. Et là, le lendemain de la première occupation, on avait été reçu par Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris, qui nous avait dit « Je vais suivre le dossier, je vais... » Évidemment, c'est compliqué de suivre le dossier quand les employeurs, cela joue à l'envers. Donc, on revient le 1er décembre, et là, 10 minutes après, un quart d'heure après, très très vite, en tout cas, dans l'action, on ne voit pas les minutes passer, mais un des collaborateurs de Grégoire arrive, en charge des Jeux Olympiques auprès de la mairie de Paris, arrive sur place et nous dit... vous ne pouvez pas rester là. Emmanuel Grégoire lui-même, quand il m'a appelé, a dit « Vous ne pouvez pas rester là, il faut partir. Sinon, on est obligé d'appeler la police. » Je lui ai dit « Ça serait quand même dommage de ternir l'image de la mairie de Paris en nous envoyant vos condés. » Puis, le gars arrive, il dit « Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez ?» Je dis « Ben, on veut l'application de ce qui a été signé en votre présence par les entreprises, en présence de Bouygues, qui a accepté quand même, contre l'évacuation de son site le 17. » Il dit « Bon, on organise dans la journée un rendez-vous avec Emmanuel Grégoire, le maire du 18e arrondissement, puisque c'est sur son périmètre de compétence. » Et les entreprises, enfin, et Bouygues, surtout. Mais une condition, c'est que vous quittiez le site. Et nous, on dit, on ne quittera le site que pour aller à la mairie. Et on reste là jusqu'au rendez-vous qui était prévu à 14h30 ou 14h, je ne sais plus. En début d'après-midi. Et là, c'était un sketch. Le gars de Bouygues nous explique que la circulaire Valls, mais comme l'avaient fait les gens de la Solideo qu'on avait rencontrés, la Solideo, c'est l'organisme qui coordonne l'ensemble des chantiers des Jeux Olympiques. Ils nous avaient dit, la circulaire Valls ne s'applique pas sur les chantiers des Jeux Olympiques. Alors nous, un peu édus, on leur dit pourquoi il y a une extraterritorialité, vous les avez vendus à quel pays, quoi. Racontez-nous quand même. Alors, ils ont fini par se fendre d'un communiqué parce que comme on les harcelait un petit peu médiatiquement et merci aux médias libres et indépendants d'avoir relayé notre haine contre la Solideo, ils ont fini par se fendre d'un communiqué en disant « Si, bien sûr, ça s'applique chez nous, mais l'obligation de reprendre et de faire travailler les gars sur nos chantiers, c'est pas... c'est pas une obligation, c'est une possibilité. » Alors, ils jouaient sur... Sauf que nous, on a signé des accords. Et en tant que juriste, un accord, en droit du travail, c'est un accord. Et on fera appliquer. Et donc, là, on dit à Emmanuel Grégoire, un, ça suffit, les dossiers, il faut qu'ils soient, parce que le dépôt des dossiers, c'est chaque préfecture de résidence des salariés. Ça isole. On a dit, un, vous vous démerdez avec le préfet de Paris, le chantier est à Paris, vous lui demandez de prendre l'ensemble des dossiers. Ce qu'on a plus ou moins obtenu. Alors maintenant, et c'est, je vous référerai pas de nos mauvaises intentions, maintenant, on a un vrai débat autour de la préfecture qui dit, ah oui, mais nous, on s'occupe que des gens qui ont véritablement travaillé sur l'ARENA. Non, nous, on a un accord global, et c'est cet accord, c'est dans le cadre de cet accord. Les relations entre la ville de Paris et la préfecture ne sont pas très, très bonnes. On veut un guichet unique, un guichet rapide, et une régularisation FISA, si je puis dire. Et on va mener d'autres actions pour obtenir et pour maintenir la pression sur les uns et les autres. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus ce soir, mais il y a d'autres choses qui se préparent. Alors, on a quand même tenté une occupation du village olympique et on a été attendu par les flics. Le matin même, ils sont arrivés, on avait rendez-vous à 7h moins 10 à Saint-Denis et ils sont arrivés au moment où on avait, devant la sortie du métro où on avait rendez-vous, les flics sont arrivés et on a réussi à protéger l'ensemble des camarades qui étaient avec nous. Autre réponse à la question sur le risque que l'on prend.
Absolument. Je vois qu'il y a une autre question de madame dans la salle, donc je vous repasse le micro.
Du coup, j'ai une question qui s'adresse à tout le monde ici et qui porte sur la régularisation. Du coup, de ce que je comprends, enfin le discours politicien, le discours médiatique, etc., c'est l'idée que pour être intégré, pour être régularisé, il faut travailler. C'est un truc qui s'applique un peu à tout le monde, j'ai l'impression. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a eu des mobilisations hors du cadre salarial qui ont permis d'établir un rapport de force qui a mené à des régularisations, pardon. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des camarades qui ont réussi à se faire régulariser en dehors du cadre salarial, ou est-ce l'unique espace où il y a un rapport de force ?
Non, j'ai envie de dire, Saint-Bernard est l'exemple même d'une mobilisation qui n'est justement pas axé sur l'aspect régularisation par le travail, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Je rappelle, on parle de Saint-Bernard. En fait, ça commence par le gymnase Japy. Ensuite, ça va sur un site Pajol, les anciens entrepôts Cernam. Et ensuite, ils occupent l'église Saint-Bernard. À quelques... moins de 200, hein. Et je vais vous faire une confidence, que je ne devrais pas. À l'époque, vu le contexte... Oui, 95. En 95, vu le contexte xénophobe qu'on avait, je n'aurais pas parié un copec sur la mobilisation. Oui, c'était... On était sur du lourd. Et ça prend. Et le soir de l'évacuation de Saint-Bernard, il y a une grande manifestation qui va vers le centre de rétention de Vincennes où avaient été emmenés les camarades qui avaient été cueillis dans Saint-Bernard. Je vous rappelle quand même qu'ils ont défoncé les portes de l'église à coups de hache. Hein. Je vous rappelle. Ça avait été chaud. Eh bien, le soir, on était on était près de 10 000 à marcher vers Vincennes. Une manif qui n'avait pas été autorisée. Et les flics ont couru toute la soirée après nous. Et quand ils ont vu qu'on allait vers Vincennes, ils se sont dit on va se mettre devant et on les a quand même enfoncés. On est arrivé quasiment jusqu'au centre de rétention. Ça veut dire il y a des capacités de résistance et de mobilisation, y compris en dehors du travail. Moi, je suis syndicaliste. Je n'ai aucune compétence pour la régularisation pour d'autres raisons. Donc j'essaye de faire le moins mal possible que je connais un petit peu.
C'est aussi pour ça, enfin, vu que vous adressez à nous en tant que délégué de la CNT, c'était une question qui était ouverte à tout le monde. Est-ce que quelqu'un ici aurait des informations sur des mobilisations qui ont réussi, c'est-à-dire où des camarades ont réussi à se faire régulariser, qui sortent du cadre du travail?
Il y a eu à Lyon, il y a eu à Marseille, il y a eu l'occupation de l'église Ménilmontant, il y a eu... Le 800 personnes, voilà. Mais on pourrait faire un inventaire à la Prévert. Oui, il y a des mobilisations. On trouve ces traces tous les jours, tous les vendredis. Les camarades de la CSP 75 font un rassemblement place de la République. Et ils ont, grâce, mais depuis une dizaine d'années, ils font ça. Hein, depuis la nuit des temps. Eh bien, grâce à ça, ils ont obtenu un guichet direct avec la préfecture. Alors, ce n'est pas des mille et des mille. Oui, en dehors du cadre du travail. Et d'ailleurs, c'est la spécificité des collectifs de sans-papiers, que ce soit celui de Montreuil, que ce soit la CSP 75, que ce soit celui du 17e, que ce soit celui du 20e, c'est de dire, nous, on ne veut pas se limiter au seul champ du travail. On ne veut pas se limiter au seul champ du travail. Parce que tous les salariés, enfin tous les humains sur ce territoire doivent retrouver leur dignité.
Juste avant de poser ma question, pour revenir à la question qui a été posée au fond, un exemple hors travail de mobilisation sur la question des sans-papiers et un exemple local, un peu ancien. Ça date du milieu des années 2000. C'est quand, notamment avec Sarko, il y a eu toute une chasse aux sans-papiers dans le 19e et dans tous les quartiers de l'Est parisien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrêtaient beaucoup de sans-papiers à la sortie des écoles, parce qu'ils accompagnaient les enfants, etc. Il y a eu des mobilisations, et en fait c'était des mobilisations défensives, empêcher les expulsions, mais en même temps, il y a eu accompagnement, et ça s'est fait dans plein d'écoles du 19e, hein. Il y a eu accompagnement de parents, de familles qui ont pu être régularisées. Et c'est une des origines de la circulaire Valls en 2012, qui bien sûr était insuffisante, mais qui était un petit plus. Voilà. On peut trouver d'autres exemples. Alors, juste ma question par rapport à ce que Étienne a dit sur Arena, c'était très intéressant parce que moi, j'avais pas les dernières étapes, les dernières nouvelles. Et je pense qu'effectivement, il y a un gros blocage. Et le blocage, c'est pas les entreprises en ce moment, c'est les préfectures et le ministère. Et on le voit, il y a aussi les grévistes de RSI, DPD, Chronopost. Ça fait 2 ans que ça dure. À RSI, ils ont eu les CERFA, mais voilà, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire, il y en a eu 17 de régularisés, et tous les autres, ayant les CERFA, rien. Voilà. Donc, je pense que, par rapport à la suite des événements, et c'est vrai que plus les JO se rapprochent, plus ça va être problématique pour le pouvoir, toute action qui bloquerait un peu la machine. Donc plus ça se rapproche, plus il y a une opportunité d'action. Et moi, je crois que pour la suite, ce qui va être important, notamment par rapport à Arena, au JO, etc., c'est qu'il y ait une coordination. C'est-à-dire que si la CNTSO fait quelque chose, je pense que ça serait important qu'au niveau de Solidaire, il y ait une information en amont, de façon à ce que ça soit le plus concerté possible, quoi. Voilà.
Vous m'excusez, il faut que je vais lui dire, parce que cette micro-là, c'est pour nous, parce que nous qui vivons de cette douleur-là, il faut qu'on explique un peu, quoi. Sinon, on a gardé beaucoup longtemps. On sait très bien que vous êtes là pour vous entendre quelque chose, pour vous ramener quelque chose. Vous êtes courageux, mais en tant que nous-mêmes, les immigrés, des fois, on n'a pas de courage. On a du courage, mais cette courage-là, on a des pères derrière de ça. C'est pour cela qu'on a une sanction, on a les pères des sanctions de camp, les gilets noirs sont là. Toujours on fait de cette sanction. Vous parlez des mobilisations. Même aujourd'hui, Même aujourd'hui, depuis 16 heures, j'ai fait des mobilisations sur les lives, TikTok, et partout. Partout. J'étais à La Chapelle. Hein. Il y a un petit foyer. Il y a un petit foyer de Porte de La Chapelle. J'étais là-bas pour mobiliser des gens. Parce qu'on est en train de réorganiser des choses, beaucoup de choses. Surtout 7 mois. Surtout 7 mois. Nous, on ne dort pas la nuit. Hein. On ne dort pas la nuit. Hein. Tu es combien de travail dans la journée? 8 heures de temps de travail dans la journée en bâtiment. Mais avec tout ça, on a des écouteurs, une oreille. Dès que quelqu'un t'appelle, tu tapes, tu décroches, tu fais ton travail, tu parles avec lui. Attends, quand je vais finir, je vais faire ça. Mais tout ça, c'est des risques. Mais on fait pour ça. On fait pour quoi? Pour mobiliser des gens, pour sensibiliser des gens. Comment on peut s'arriver? Nous, on ne visait pas une seule côté, hein, soit des problèmes de papier. Non. En tant que, même si une femme qui voulait divorcer, si moi, il me dit, il faut me faire des mobilisations, je vais l'aider. Parce que c'est ça qu'il mérite, son dignité. Chacun, il mérite son dignité. Parce que si tu n'as pas de dignité, tu n'as rien. Et puis, le problème même, si quelqu'un il vit de mal, c'est pire même. Cette personne qui va faire des choses bizarres. Celui qui ne travaille pas. Il ne sait pas comment il va aller manger. C'est obligatoire, il va voler quelqu'un. C'est obligatoire pour y faire vivre. C'est pour cela que nous, en tant que Zimérés, quand on est vénéré ici, le premier objectif pour travailler. Quand on travaille, on peut garder notre dignité. Au moins, que t'as fin de mois, tu as de quelque chose. Sinon, même entre nous-mêmes, si moi je prends ton papier pour aller travailler, tu sais, il y a des choses ça, on garde tellement que c'est bizarre. Moi-même, je me suis trahi avec mon cousin, hein, 4 000 euros, à cause de quand je travaille pour Clissy, palais des justices là-bas. Je travaille avec son papier. Il m'a arnaqué 4 000 euros. Je vais appeler où? À police? Non. Parce que cette papier-là, ce n'est pas mon tête qui est là-bas, c'est son tête. L'argent, il vient sur le compte de qui? C'est le compte de lui. Il y a des milliers de personnes comme ça. C'est pour cela que des fois, quand tu es décroisé, tu es obligé de prendre des risques pour aller faire des chambres et fausses papiers pour travailler avec ça. Et les patrons aussi, des fois, ils ont des raisons. Hein. Parce que quand, en tant qu'une seule immigrée, quand tu appelles moi, je vais te prendre des journées 100 euros. Il faut que moi, je ne travaille pas ces journées 50 euros, il faut 100 euros. Quelqu'un qui va venir, ah, si tu me prends même 40 euros, ton marché, il est parti faillite. Il va prendre 40 euros. Parce que c'est la même. C'est les nous immigrés même qui font ça. On est en train de gâter de notre marché. Une seule journée, tous les immigrés en France ici, quand on fait des arrêts en France, une seule journée, la France, il va mettre en genou. Il va mettre en genou. Mais pour mobiliser les gens, des immigrés ici, non, ce n'est pas possible. Parce que si quelqu'un qui a trouvé un mois de papier, un bout de papier, un mois de carte de séjour, il va dire, bon, moi, je suis tranquille. Non, tu n'es pas tranquille, mon frère. Tu es tranquille où? Toi, tu es tranquille. Et ton cousin et ton frère, ils sont où? Moi, je suis quitté à Gambie. Je suis malien. Je partais à Dakar. J'ai fait un an là-bas pour chercher des cartes et visa. Je n'ai pas trouvé. J'ai parti à Gambie. J'ai pris à Gambie, en avion en Gambie, Banjul, venir à Espagne. J'ai un grand frère là-bas, même mère, même père. Le premier garçon de ma mère. Il est en Espagne avec sa famille. Il m'a dit, monsieur, restez ici. J'ai dit, non, bon. Non, moi, ça ne m'a pas plu, quoi. C'est que j'ai entendu la France, là, il faut que je parle là-bas. J'ai pris TGV, 160 euros. J'ai rentré à Gare de Lyon. Depuis que j'ai rentré à Gare de Lyon, j'ai dégoûté. J'ai dit, ici, ce n'est pas en France. Ici, ce n'est pas en France. Pendant 10 ans, j'étais en France. Je n'ai jamais vu une chose incroyable qui, ça me fait rêve. Soit j'ai des papiers, je vais partir chez moi. Soit je n'ai pas de papiers, je vais partir chez moi. Je ne vais pas venir ici pour mourir ici. Hein. Je ne suis pas là pour mourir ici. Hein. Je suis là pour gagner ma vie, pour construire ma vie. Comme les Français, ils sont partis de chercher quelque chose chez nous, ils sont ramenés ici. Nous aussi, cette fois-ci, c'est notre tour, on va chercher ce que vous ramenez ici, on va retourner chez nous encore. C'est ça qu'on vit.
Voilà pour cette discussion. C'était donc Mamadou Tamoura, hein, d'origine malienne, présent depuis 10 ans en France. Il représentait le collectif des Gilets Noirs. Et d'ailleurs, il fait partie des centaines de travailleurs qui ont participé à la construction du palais de justice de Paris, porte de Clichy, dont le tribunal donc ouvert il y a 3-4 ans, flambant neuf. Et donc, merci. Je ne crois pas que le ministère de la Justice t'en verra un jour à faire part. C'est d'ailleurs ce que Mamadou raconte dans le podcast de cette discussion. Nous n'avons choisi que quelques passages, hein, c'est assez long. Podcast à retrouver sur la page Spotify du TDTF Paris, le lieu qui organisait donc cet événement. Un bar qui se trouve dans le 19e au métro Lomière. Merci d'ailleurs à l'équipe du TDTF pour la prise de son. À propos de l'Arena Adidas, donc on en parlait juste avant, sachez qu'elle est censée être inaugurée en grande pompe par le gratin du Cojo. Ce sera le 11 mars prochain. Espérons qu'il y aura ce jour-là du bruit et du chaos. Retrouvez les Gilets Noirs sur leur page Facebook. Elle s'appelle exactement Gilets Noirs en lutte. Le site internet de la CNT, c'est tout simple, cnt-so.org. Et puis, pourquoi pas, restez informés sur les différentes actions qui auront lieu ces prochaines semaines autour des JOP sur le site du collectif Saccage 2024. Voilà, les amis d'Orwell, c'est terminé. Je passe la main à Henrik. Merci pour le coup de main, encore une fois, camarade. Et puis, bonne fin de soirée à l'écoute de Radio Libertaire sur 89.4.
La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police.
Sono le 22:30.
Bonsoir. Radio Libertaire, de nouveau, nous sommes sur l'antenne de Radio Libertaire. De nouveau, nous sommes là tout court, en fait. Comme souvent, le vendredi soir, un peu plus tard ce soir. Salut, bonsoir à tous, c'est le Poznan Radio Show. Bonsoir Serge, bonsoir Guy, bonsoir Yves.
Bonsoir.
Oui, c'est expédié, hein. Bonsoir.
Oh, il s'est expédié, j'en avais marre d'attendre. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, de nouveau sur l'antenne, en direct, je précise, même si je me répète. Radio Libertaire, c'est le 89.4 sur la bande FM sur Paris. C'est en DAB+, le multiplex
9A.
Je l'attendais. 9A. Ah, il ne faut pas se tromper. Et sur internet, radio-libertaire.org, anarchiste.info et Radio Libertaire, Mixcloud. Voilà, ça c'est fait. Ok, c'est bon. Alors, comme d'hab, quelques annonces de la librairie Publico. Je reprends mon souffle s'il m'en reste. Ah, voilà. Sinon, je vais mourir. J'ai déjà mort de fatigue. Demain samedi, 16h, formation professionnelle, grand détournement, projection, débat. Dimanche 11, 16h toujours, concert avec Nathalie Solans, accompagnée de Claude Guen à la guitare et Jean-Pierre Egeldinger à l'accordéon. Ensuite, le 18, le dimanche suivant, 16h30, le phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, projection de débat à l'initiative du groupe libertaire d'Ivry, de la fédération anarchiste, bien sûr. Puis, mercredi,